Notre chroniqueuse politique, Jacinthe Varel, est avec nous en studio. Comment ça va? Hein?
Ça va bien, merci.
T'as-tu un petit plaisir d'analyser les sondages qu'on a eus hier là, par rapport aux intentions de vote?
Ben oui, absolument.
J'en doute pas, là. Ça doit être comme, t'sais, pour quelqu'un comme toi qui tripe à ce point-là politique, là, ça doit être du petit bonbon, ça, là. Non?
Absolument. Ben, quoi qu'il n'y a rien de surprenant dans ces sondages-là, on suit une tendance qui s'observe déjà. Il n'y a pas eu de surprise dans le sens où c'est juste des tendances qui s'accentuent.
Oui. Hein? On s'est dit que ça serait un bon moment aussi de peut-être faire, puis Jeff l'a mentionné, on est comme dans l'étape des bulletins pour nos jeunes en ce moment. Peut-être faire un petit bulletin par rapport à nos partis politiques au provincial, les derniers sondages, peut-être jaser un petit peu de les prochaines étapes à suivre pour que, dans certains cas, ça s'améliore ou dans d'autres, que ça se maintient. Peut-être commencer avec la CAQ, pourquoi pas. Ça continue de glisser. Sais-tu, Jacinthe, bientôt le moment de peut-être, qui sait, commencer à jaser d'avoir un remplacement pour François Legault?
C'est ce qui se dessine ou c'est ce qui se commence à s'ébruiter dans les couloirs, dans les discussions informelles. Hein. On commence à se demander si le leadership de François Legault n'est pas à remettre en cause dans cette glissade inarrêtable de la CAQ. Elle continue de dégringoler. On est encore loin des prochaines élections. On est encore à 2 ans, mais justement, s'il faut prévenir ou prévoir la remontée de la CAQ, il faut le faire longtemps d'avance. On le voit avec Justin Trudeau. Il n'y a pas de chef qui a été identifié au fédéral pour prendre la relève. Et là, ça fait déjà quelques mois qu'on se dit il est trop tard pour identifier un éventuel chef. Donc, c'est le temps pour la Coalition Avenir Québec de songer à ce leadership-là et à prendre position. Soit assumer que François Legault continue aux commandes ou soit prévoir un remplaçant. Mais c'est sûr que ça commence à s'ébruiter. Est-ce que c'est souvent une réaction normale. Hein? On commence à se tourner vers le chef quand le leadership d'un parti va moins bien. En même temps, tombons pas dans ce piège-là. Même si on identifiait tout de suite une ou deux personnes pour prendre la relève, ça va être sûrement à l'intérieur de l'équipe actuelle. Et c'est pas vrai là, que tout le programme où les échecs d'un parti reposent sur les épaules seules d'un chef. Alors, même s'il y avait déjà des éventuels aspirants à la chefferie, ils vont incarner quand même les échecs de la CAQ actuellement.
Bien, c'est ça, tu sais, je te pitche des noms comme ça, là, tu sais, Geneviève Guilbeault, Bernard Drainville, tu sais. C'est des gens qui ont des gros dossiers présentement, éducation, transport. Il n'y a pas un haut taux de satisfaction envers ces deux personnes-là. Fait que ça serait-tu changé, là, la fameuse expression 4,30 sous pour une pièce?
Bien, c'est sûr que l'insatisfaction, notamment à l'égard de Geneviève Guilbeault, qui a été mise de l'avant beaucoup dans des dossiers
comme
qui ont été...
vice-première ministre.
Justement, comme vice-première ministre, dans les dossiers du troisième lien, du tramway. Beaucoup de dossiers, elle a eu à porter sur ses épaules beaucoup de dossiers qui ne font pas bien paraître la Coalition Avenir Québec. C'est pas de sa faute, mais elle porte cette image-là. Donc, ça serait pas nécessairement améliorer la situation en ce qui la concerne. Bernard Drainville est pris aussi avec le piétinage et les enjeux du troisième lien. On a Simon Jolin-Barrette qui est très ambitieux et qui permettrait là, d'avoir une lumière, un projecteur en dehors de la région de Québec, puisque c'est un député de la région de la Montérégie. C'est à voir, mais il reste qu'ils sont tous porteurs des échecs et des difficultés du gouvernement actuel. Sont tous obligés de défendre actuellement le bilan et défendre ce bilan-là, peu importe qui sera le chef, ça sera bien difficile.
Contrairement à la CAQ, pour le Parti québécois, ça se passe super bien. C'est totalement à l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait pour le PQ quand on veut continuer à aller dans cet élan-là? On veut-tu faire des gestes ou des décisions plus drastiques ou on continue juste à garder le cap?
Bien, ils ont une bonne posture, c'est vrai, mais ils bénéficient aussi d'un contexte favorable. La CAQ est prise devant ses contradictions, devant ses échecs, alors elle perd en faveur populaire. Le Parti libéral, on n'a pas de chef encore. Il y a différents scénarios qui se dessinent, mais c'est tous des scénarios qui sont incertains encore. Donc, le Parti québécois profite de cet écosystème-là où on cherche finalement vers qui on va se tourner pour reprendre les rênes du Québec. Et là, ils ont une bonne posture. Mais en plus, moi, il faut leur donner ça. Paul Saint-Pierre Plamondon et les députés du Parti québécois parlent clairement aux gens. Ils n'ont pas la langue de bois. Quand ils expliquent un enjeu, quand ils expliquent un problème, quand ils viennent proposer une solution, on la comprend. Ils parlent un langage simple, un langage clair, un langage accessible. Ils prennent des risques de se positionner. Et ces risques-là, que plusieurs politiciens n'osent pas prendre pour garder la plus grande faveur populaire possible, ben finalement, ils finissent par parler la langue de bois. Le Parti québécois, on peut leur donner ça, et l'ensemble des députés du Parti québécois, ils sont authentiques dans leurs propositions. Ils osent prendre des risques, ouais, et en se positionnant. Et ça, les Québécois apprécient beaucoup. Donc, je pense que ça serait la stratégie à poursuivre. Même si on n'est pas toujours d'accord avec leurs propositions, on sait où ils logent. Et ça, c'est important. Et on sent qu'ils parlent avec leur cœur, qu'ils parlent avec leurs convictions. Ils ne sont pas en train de nous endormir avec des phrases creuses puis des grands principes pour essayer d'aller chercher la majorité de la faveur populaire.
Et pour toi, justement, quand on regarde ça aujourd'hui, c'est quoi les chances que le Parti québécois soit porté au pouvoir dans 2 ans? Est-ce que c'est forte, moyenne ou, je veux dire, faible pour la forme, là? D'après moi, c'est plus dans les 2 premières options. Laquelle?
Ça va dépendre de tellement de facteurs. Ça pourrait être forte, ça pourrait être moyenne, mais ça va dépendre de qui sera aux commandes de la Coalition Avenir Québec. Est-ce que ce sera François Legault ou un nouveau chef qui incarne une possibilité de changement, qui incarne un renouveau? Ça va changer quelque chose. Et qui sera aux commandes du Parti libéral? Tu vas me dire, ben oui, mais ceux qui votent Parti québécois se tourneront pas nécessairement vers le Parti libéral, mais justement la force avec laquelle le Parti libéral va venir frapper sur l'idée de l'indépendance et de la souveraineté va nous ramener... Dans des
débat.
Chapitres qu'on a tous connus. Mais ça, c'est certain que ça va jouer. Est-ce qu'on aura un chef au Parti libéral, mm-hmm, qui va nous ramener dans ces vieilles chicanes-là? À quel point ça va prendre l'ampleur? À quel point les Québécois vont avoir peur? En même temps, on est habitué d'avoir eu des gouvernements péquistes au pouvoir sans nécessairement nous avoir menés. Sans jamais nous avoir menés à la souveraineté et à l'indépendance. Donc, les Québécois n'ont pas nécessairement peur de cette carte-là. Est-ce que la carte de la peur, mm-hmm, va fonctionner cette fois-là? J'en doute. Donc, les chances sont quand même fortes.
Mais justement, on n'a pas le choix quand même de parler de souveraineté, puis je m'explique. Le PQ veut le faire dans un premier mandat, puis présentement, quand on regarde le sondage, il y a 25 % des gens qui appuient le PQ qui ne sont pas souverainistes. Y a-t-il un risque de glissade, là?
Le Parti québécois a un sérieux défi devant lui. Paul Saint-Pierre Plamondon a un sérieux défi devant lui parce que les militants de longue date, les militants historiques, les péquistes de cœur, les indépendantistes, les souverainistes de longue date veulent entendre parler d'indépendance.
Ils veulent le troisième référendum.
Ils veulent le troisième référendum et le plus rapidement possible. Alors, Paul Saint-Pierre Plamondon et les députés sont confrontés à cet impératif-là de leurs membres. En même temps, quand on voit dans les sondages et quand on parle aux gens, j'étais encore hier là, avec des gens beaucoup de gens. Faut pas trop j'hésite.
Bien connecté. Bien placé.
Jacinthe a plein de contacts. J'adore ça.
Et tout le monde s'entendait pour dire « Colin, il comprend pas Paul Saint-Pierre Plamondon, il est donc bien têtu. » Mais s'il s'enlignait pour d'abord et avant tout proposer aux Québécois, on va remettre le Québec ses rails, on va rebâtir l'économie, on va nous renforcer, on va renforcer notre économie, on va se remettre sur le piton, puis après ça, on parlera d'indépendance, après ça, on fera un référendum sur la souveraineté. Colin, qui ne réalise pas,
même,
il gagnerait en claquant des doigts.
Oui, parce que tu l'as dit, quand que le PQ parle, c'est clair, c'est précis. Moi, je l'admets, je ne suis pas un souverainiste, mais aujourd'hui, je voterais peut-être PQ parce que je trouve que c'est ceux qui sont les plus transparents, les plus honnêtes, puis qu'ils me proposent justement quelque chose qui m'intéresse.
Oui, mais c'est ça. Les Québécois ne sont pas dupes et maintenant, on sait à quel point l'économie est un critère fondamental pour assurer notre souveraineté énergétique, notre souveraineté économique, notre souveraineté. Ouais. Il y a plusieurs types de souveraineté, ouais, et la force d'un État, que ce soit sur le plan culturel, intellectuel, elle est aussi animée par une économie forte, des industries fortes, un secteur industriel fort. On peut pas être juste une économie de succursale, une économie de services, et c'est ce qu'on est en train de devenir, là. Puis ceux qui s'intéressent à la politique étrangère, aux politiques intérieures, aux politiques économiques des autres États, on regarde souvent la France, c'est facile de regarder cette... C'est un État qui s'est tourné complètement vers une économie de services, une économie de succursales, qui perd ses sièges sociaux, pareil comme nous, et on suit les mêmes traces. Et quand on perd nos sièges sociaux, on perd notre indépendance financière, on perd notre force financière, notre force économique, et après ça, ça devient beaucoup plus difficile de vendre un projet de souveraineté à une population qui est tout à fait consciente de ça.
parlons-en de l'économie, parlons des libéraux, statu quo dans le sondage. On n'a pas encore de chef officiel. Est-ce que Pablo Rodriguez, c'est le sauveur de ce parti-là ou est-ce que c'est un nom moins connu du public?
C'est très drôle à quel point il y a un engouement autour de Pablo Rodriguez. Il y a un engouement, là.
L'establishment, par exemple.
L'establishment, oui. Il y a une figure. Et là, c'est vraiment... Il y a une figure rassurante. On le connaît. Hein? Il est très connu dans le milieu montréalais. Mais en même temps, c'est particulier parce qu'il incarne quand même, il doit défendre le bilan de Justin Trudeau, Parti libéral du Canada, qui est un gouvernement ultra dépensier. Et là... Il se propose comme chef du Parti libéral du Québec, qui se veut un parti historiquement de l'économie.
Austérité.
Il y en a qui disent austérité, il y en a qui disent responsable sur le plan économique.
Exactement. Mais c'est galvaudé austérité. Ouais. Je le dis parce que c'est le mot, mais moi, je trouve qu'ils ont bien géré le budget libéraux, that's it.
Ben oui. Mais là, d'arriver avec cette candidature-là, ça pose toute la question au Québec. Est-ce qu'on vote pour la personne, le charisme d'une personne, ce qu'il incarne comme individu personnellement? Puis on l'a vu un peu dans les élections américaines, hein, ce qui fait autant, qui rend autant les gens épidermiques à propos de Donald Trump, c'est pas ses politiques, c'est qui l'incarne comme personne, sa personnalité qui horripile une grande majorité des Québécois. Alors on vote avec des idées, mais on vote beaucoup avec la personnalité qui est incarnée par le chef. Et là, étrangement, Pablo Rodriguez vient apporter une espèce de sympathie qui est un peu inexplicable sur le plan des idées politiques, mais qui s'explique par le charisme, le charme, appelez-le comme vous voulez.
Sa belle marche sur le pont. Là.
Il a l'air fin.
Il a l'air comme un peu cool.
Parlant de personnes, moi, j'ai regardé les audits de performance du RTC avec du popcorn. Puis là, en fin de semaine, j'ai le goût aussi de sortir le popcorn pour regarder Québec solidaire chicaner entre Ruba Gazal puis GND. Y es-tu mort, Gabriel Nadeau-Dubois, là, avec ces sondages-là? Là, est-ce qu'on va le tasser gentiment pour laisser plus de place à Ruba Gazal?
C'est un grand test pour lui. C'est sûr que c'est un grand test. Est-ce qu'il sera tassé? Moi, je me rappelle toujours des propos d'Émilie Lessard-Terrien qui a quitté et qui disait Gabriel Nadeau-Dubois, il y a un noyau dur autour de lui qu'il supporte. À quel point ce noyau dur est fort? À quel point il est protégé par l'establishment du Parti de Québec solidaire? C'est ça qu'on ne connaît pas quand on n'est pas à l'interne. À quel point il est protégé? Et à quel point on voit encore en lui un avenir, mais c'est sûr que son leadership va être mis à rude épreuve avec ces chiffres-là. À un moment donné, on peut pas rester. À moins qu'on assume que ce parti-là va toujours être un parti marginal, qui n'aspire pas nécessairement ou qui abandonne l'idée là, de l'idée...
D'être au pouvoir.
Oui, d'avoir une possibilité de gouverner. Peut-être que c'est là où ils s'en vont, je ne sais pas.
Mais Jacinthe, chose certaine, tu sais, Québec solidaire, ça a besoin d'un électrochoc pour devenir un parti pertinent. Là. Ça prend quelque chose, non?
Oui, absolument. Bon, on est dans la continuité depuis longtemps là, avec le Québec solidaire, même Ruba Gazal, sa nomination comme co-porte-parole du parti. On reste dans la continuité. Il y en avait eu une tentative de faire une rupture avec ou d'ajouter un angle nouveau avec Émilie Lessard-Terrien qui venait des régions, qui avait un regard différent sur ce parti de gauche. Avec un regard plus régional, plus rural, puis ça n'a pas été accepté à l'interne, ou en tout cas, c'est ce qu'elle... Je prends toujours sa version des choses, mais elle s'est exclue elle-même parce qu'elle sentait qu'il n'y avait pas de place pour cet angle nouveau-là. Donc, ce n'est pas un parti en ce moment qui tente de se renouveler, c'est un parti qui est dans la continuité jusqu'à temps qu'ils veulent faire une percée dans les sondages ou dans les intentions de vote. Ils vont rester dans cette continuité-là. C'est un confort peut-être qui les rassure. C'est un confort rassurant des fois.
Et parlant de pertinence, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que qu'est-ce que les conservateurs ont besoin, c'est un projet fort, solide, bien bâti pour rallier les troupes. Rallier les gens. Est-ce que je me trompe?
Les conservateurs, tu me parles?
Oui.
Les conservateurs fédéraux ou au provincial?
Au provincial.
Au provincial. Ouais, ouais. On est toujours au provincial.
Ouais, on reste au provincial. Ouais,
ouais, ouais, provincial.
Ouais. Faut faire le tour.
Chronique politique provinciale.
C'est bon. Ben oui, ils ont besoin d'un projet. On parle beaucoup du troisième lien dans la région de Québec pour le Parti conservateur. Ça fait partie des revendications qui sont fortes. Il est très associé à ce projet de troisième lien-là. C'est le seul parti qui défend un nouveau lien dans la région de Québec. Alors ça, je pense que c'est porteur. C'est un filon à ne pas perdre de vue parce qu'on sait que la majorité des gens de la région de Québec et la région de Lévis, Chaudière-Appalaches, est en faveur d'un nouveau lien. C'est le seul parti. Donc, c'est sûr que de continuer là-dessus, c'est une bonne idée. En même temps, ça le peinture dans le coin en ce qui a trait aux autres circonscriptions dans le reste du Québec qui n'est pas nécessairement en faveur du nouveau lien, qui ne comprend pas nécessairement les enjeux puis qui pense que c'est un caprice de la région des gens de la région de Québec d'avoir un nouveau lien.
Je disais ce matin dans Le Soleil un texte avec des réactions de différents élus de l'île d'Orléans sur la présentation des résultats d'un sondage qui dit qu'à peu près la moitié du monde sur l'île d'Orléans serait d'accord pour le passage d'un troisième lien. Puis il y a des élus qui disent qu'ils ne croient pas puis qu'ils le font pas, mais qui ont l'air de quasiment avoir envie d'accuser le Parti conservateur de fausser les résultats. Alors, tu sais, c'est quand même un sondage qui a été fait par Palace, là, qui est quand même reconnu. À quel point ce manque de, je sais pas, je veux dire, crédibilité-là fait mal aux conservateurs? On dirait que pas mal de gens les voient comme, ben justement, un parti qui n'en a pas de siège à l'Assemblée nationale puis qui fait un peu n'importe quoi puis auquel on ne devrait pas faire confiance.
C'est difficile pour le Parti conservateur d'aller chercher une crédibilité. C'est comme si, effectivement, le fait de ne pas avoir été capable d'élire un député à l'Assemblée nationale les place toujours en posture de devoir revendiquer le fait qu'ils représentent quand même, en fonction des votes qu'ils ont reçus à l'élection 2022, ils ont reçu quand même la même quantité de votes que Québec solidaire, il me semble. C'est le même nombre de votes que Québec solidaire, c'est juste qu'ils n'ont pas réussi à élire de députés. Alors, tant qu'il n'y aura pas d'élus à l'Assemblée nationale, ça va être difficile. En même temps, il y a un programme peut-être à proposer davantage sur autre chose que le troisième lien. Ils en font toutes sortes de manœuvres pour se crédibiliser, se professionnaliser, montrer qu'ils ont un projet à présenter. Mais on dirait qu'au Québec, une fois qu'on a catégorisé quelqu'un, un parti, une couleur, un parti politique, un chef, c'est bien difficile d'enlever les étiquettes que les gens nous ont posées. Et là, ben, y a une étiquette un peu je sais pas si bouc émissaire ou de parti...
Pas sérieux
ou infréquentable. Je dirais même encore infréquentable, qui est bien dommage parce qu'on se prive au Québec d'avoir une voix différente, réellement différente, parce que, justement, on reste pris avec ces étiquettes qui ont été posées durant la campagne électorale puis qui continuent de perdurer.
J'en ai une petite dernière pour toi, parce que j'ai réfléchi à ça hier. Le pont de Québec. Là, on fait une annonce sur le pont de Québec, le gouvernement fédéral. Puis tu as Sandra Martel, qui est la première dirigeante de la Société des ponts Jacques-Cartier-Champlain, qui dit « On est capable d'accueillir des poids lourds sur le pont de Québec. » Là, je me demandais comment ça sort. Puis j'ai dit « Ça doit être une commande politique des libéraux fédéraux qui veulent donner une petite jambette à la CAQ sur le troisième lien. » Je me trompe-tu?
Ça ressemble à ça. Ça ressemble vraiment à ça parce que si on regarde la manière dont elle a répondu. Elle a dit les données actuelles qu'on a ne nous donnent pas de limite sur la charge du pont de Québec, donc on pourrait avoir des camions lourds. Bon. Et là, ça a spiné dans les médias. Là, fait que là, on peut avoir des camions. Faut vraiment pas connaître le secteur. Faut vraiment pas connaître le secteur pour affirmer qu'on est bien correct avec notre pont de Québec. Les camions peuvent circuler là-dessus. Ouais. Et aller faire un tour dans le coin du secteur ultra-commercial du côté de la rive sud du pont de Québec. Voyons voir. Imaginez des vannes s'enligner pour prendre le pont de Québec du côté de la rive sud. Ça n'a pas de bon sens. La côte qui a remonté en arrivant sur la rive nord. Après ça, les des camions qui prennent quand même plus de temps à reprendre leur accélération en sortant du pont, là, puis la belle grosse côte qui a monté. Arrivé sur le chemin Saint-Louis, tout est chaud.
De toute façon, on peut même plus rouler sur le chemin Saint-Louis, là.
Non, les voies qu'on doit fermer sur le pont pour que des trucks passent.
Ben oui. Non, c'est complètement ridicule. Dans la théorie, si on peut avoir des poids lourds sur le pont de Québec, c'est autre chose qu'en pratique.
Ben,
et ça, franchement, c'est vrai que ça ressemble à une commande politique ou ça ressemble à une idéologie, peut-être. Parce que, tu sais, derrière ces organisations-là, il y a des humains. Il y a des humains qui votent, qui ont des couleurs politiques et qui, finalement, croient fermement à certaines idées préconçues ou qui adhèrent à certaines idées préconçues. Mais oui, ça ressemble soit à une commande politique, soit à... Ben, il y a aussi un spin des médias, là, parce que finalement, il n'y a personne qui est allé fouiller ça. Là, attendez une minute. Là, parce que si on lit comme il faut tout ce qu'elle a dit, elle a aussi dit que ça prendrait au moins 4 ans faire une inspection complète du pont de Québec avant de procéder à des travaux de peinture et qu'on ne pouvait même pas peinturer partout en même temps sur le pont de Québec à cause de la charge que ça allait imputer au pont.
Mais on va mettre des poids lourds.
Oui, c'est ça.
Non,
si tellement tu te mets à creuser, tu te rends bien compte qu'il y a quelque chose de très idéologique qui a été repris par des médias ultra complaisants à l'idée de tous les partis politiques qui se positionnent contre l'idée d'un nouveau lien. D'ailleurs, vous me faites penser que je viens de dire dans cette même chronique que le seul qui propose un nouveau lien, c'est le Parti conservateur, alors que dans les faits, il y a la coalition Avenir Québec qui propose.
Il y a Frédéric Beauchemin chez les libéraux, là.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Ouais. On va leur donner
le bénéfice du doute, mais ceux qui se battent vraiment, 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 ceux qui n'ont jamais changé d'idée, c'est le Parti conservateur, mais je tiens à corriger.
Jacinthe Averelle, notre chroniqueuse politique, merci pour ce bulletin sur les différents partis politiques ici au Québec. C'était très, très, très intéressant. On va répéter l'exercice, là, un peu comme, justement, au secondaire ou à l'école, là, avec les différents bulletins, les différentes étapes comme ça.
Oui, parfait. Merci.
Merci à toi.
Salut.
Jacinthe-Ève, restez là après la pause. Entre autres, on va nommer le nom de la personne gagnante des billets du jour pour Jelly Roll au mois de mars au Centre Vidéotron. On s'arrête.